signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous vous dites agent provocateur. Un agent provocateur provoque. Je pense que vous êtes d'accord pour penser que la classe moyenne est stupide. Elle n'a pas d'imagination. Ce qu'il lui faut en ce moment précis, c'est une fameuse peur. Un acte d'une férocité si destructrice, si absurde, qu'elle est incompréhensible, inexplicable, presque impensable. Seule la folie est véritablement terrifiante. J'extrais ce passage des premières pages du roman de l'écrivain Joseph Conrad, L'agent secret, publié en 1907. L'homme qui parle ainsi à son homme de main s'appelle Vladimir, c'est un agent de l'ambassade russe. Dans ce livre, Conrad s'inspire de l'histoire authentique des groupes anarchistes manipulés par les agents russes pour commettre une série d'actions terroristes dans le but de déstabiliser le système libéral. Dans la réalité, cela s'est passé à Paris dans les années 1890, mais Conrad a déplacé l'action à Londres où il vivait et avec une intuition de génie, il a donné symboliquement pour cible au provocateur l'observatoire de Greenwich qui calcule le temps universel. Une action effrayante parce qu'absurde va sidérer l'opinion et détruire le temps commun. C'est ce qui se passe, ou bien non, depuis le milieu de la semaine dernière où est apparue sur le net la vidéo de Benjamin Griveaux postée par l'artiste russe Piotr Vazlensky, depuis que le temps politique est kidnappé par cette diffusion et l'attention accrochée aux noms et personnalités improbables entourant cette histoire. Piotr Vazlensky est-il manipulé par les Russes? Est-il un artiste poussant à l'extrême la notion de performance? Et quelle fonction joue Internet aujourd'hui dans la diffusion de cette férocité brouillant tous les repères dont parle déjà Conrad? Avec pour en parler aujourd'hui Isabelle Barberis. Isabelle Barberis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en art du spectacle à l'Université Paris 7, Denis Diderot. Vous avez publié toute fin de semaine dans The Conversation et un article remarquable repris par la Tribune sur Piotr Vazlensky entre avant-garde réactionnaire et snuffisation de la politique. Vous êtes aussi l'auteur de Du masque au profil, théâtre, performance et web 2.0 qui traite du même sujet. Tariq Krim, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entrepreneur, ancien vice-président du Conseil du numérique, spécialiste des questions d'éthique et de vie privée sur Internet, c'est ça?
Absolument.
Benoît Thiolin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entrepreneur également, vous êtes directeur de l'agence de communication numérique NetSquad. Vous avez été directeur de la campagne numérique de Ségolène Royal et vous avez en 2013 été nommé à la tête du Conseil national du numérique par François Hollande où vous êtes resté jusqu'en février 2016, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et Michel Etchneninov, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, journaliste, rédacteur en chef de Philosophie Magazine. Vous avez vécu en Russie, vous avez été en poste là-bas, à l'ambassade de France. Vous avez écrit plusieurs livres sur la Russie, notamment Dostoïevski, le roman du corps, dans la tête de Vladimir Poutine. Et en 2016, vous avez fondé l'association Les Nouveaux Dissidents, avec Marina Shebat et d'autres. C'est une association qui a lancé plusieurs initiatives, notamment une campagne en faveur de la libération du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, emprisonné en Russie. En 2016 également, vous avez préfacé Le cas Pavlensky de Piotr Pavlensky, publié chez Louison Édition.
Tout à fait.
Voilà. Alors, on va commencer par dire où on en est. Hein. Hier, Benjamin Griveaux a porté plainte pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Le parquet de Paris a ouvert une enquête confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Dans la journée, Piotr Pavlensky, on vient de le dire au journal, a été arrêté pour fait de violence avec arme dans le cadre d'une enquête qui précède cette histoire. Une bagarre agitée chez Juan Branco le 31 décembre dernier, au cours de laquelle il aurait blessé deux personnes. Et enfin, son amie Alexandra de Tadeo, une Française de 29 ans, a été placée en garde à vue également hier soir, et c'est elle qui aurait apparemment reçu les vidéos de Benjamin Griveaux et qui les aurait, c'est par elle en tout cas, que les vidéos auraient transité. Alors, avant qu'on commence, je vais vous poser la question. Manipulation, pas manipulation, qui veut répondre? Oui, allez-y.
Pour l'instant, évidemment, on ne sait rien. Ce qui est certain, c'est que Pavlensky parle très mal français. Il est arrivé en France donc en 2017, il parlait pas du tout français. Ouais. Il l'a un petit peu appris, mais je pense qu'il est tout à fait dans l'incapacité de créer un site aussi voilà, qui est écrit en bon français, hein, parce que on l'a regardé, porno politique. Donc ce qui est évident, c'est qu'il n'était pas seul. Alors ensuite, il y a des degrés de présomption divers. Est-ce que on est dans un compromat, c'est-à-dire dans cette forme de compromission par du matériel compromettant, donc, qui est une des traditions soviétiques et qui a continué dans l'époque post-soviétique. Hein, sous Poutine, il y a plusieurs compromates où on a, avec des vidéos à caractère sexuel. Ensuite, évidemment, Pavlensky est russe. Et toute la question qui se pose, c'est comment un opposant à Vladimir Poutine, puisque Pavlensky était un opposant farouche à Vladimir Poutine, se retrouve aujourd'hui à utiliser des méthodes qui sont davantage proches, justement, aux pratiques des services secrets russes. Donc,
ce ne serait pas la première fois non plus que des gens qui se disent opposés au régime russe ou soviétique pendant la guerre froide ou même avant se retrouvent en fait du côté qu'ils affirment combattre.
Hein. Tout à fait, bien sûr.
C'est vieille technique.
Oui, c'est une vieille technique.
C'est un processus psychologique qui a vraiment existé aussi. Seulement une technique.
Ensuite, c'est très compliqué de comprendre. Moi, je ne constate que deux choses. C'est que du point de vue politique, il a changé de combat. Et c'était quelqu'un qui s'opposait à l'arbitraire poutinien. Ensuite, dans son action contre la filiale de la Banque de France près de la place de la Bastille, il est devenu anticapitaliste, hein, contre le pouvoir de la finance. Il a accolé deux signifiants qui étaient place de la Bastille et banque. Et ça, il a trouvé ça scandaleux. Il a incendié la façade, ce qui lui a valu un an de prison. Donc, il a changé d'objectif politique. Aujourd'hui, en dénonçant Benjamin Griveaux et l'hypocrisie de la classe politique qui change carrément d'objectifs politiques. Je pense qu'on n'est plus du tout dans la même logique que celle qui prévalait dans son œuvre il y a quelques années. Puis par ailleurs, il change aussi, enfin, vous allez en parler, mais il change aussi de type d'art. C'est-à-dire qu'il faisait des performances à caractère très choquant en se clouant le scrotum sur la place rouge, en se coupant le lobe d'oreille dans le lieu symbolique de la psychiatrie répressive soviétique. Il faisait des choses de ce type-là. Aujourd'hui, il propose un site où il dévoile des images volées. J'ai l'impression qu'on n'est ni dans le même objectif politique, ni dans le même type d'art.
C'est oui et non, parce que c'est très ambigu la situation. Hein, parce qu'en même temps, quand on écoute le discours de Juan Branco, on va écouter successivement, je voudrais qu'on écoute successivement la déclaration d'un militant des Gilets jaunes, et ensuite, tout de suite après, le Juan Branco.
Bah alors mec, t'es un homme? T'es un être humain, Benjamin Griveaux? Apparemment, tu te branles sur des vidéos? Et tu viens nous donner des leçons à nous, antisémites, sidicieux et toutes les conneries que t'as pu sortir. Je le répète à l'ensemble des politiques. Avant de venir nous donner des leçons, les gars, allez vous laver le cul. Allez vous laver le cul, parce qu'à un moment donné, même si c'est pas la justice de l'homme qui passera, ce sera sûrement la justice divine.
Piotr Pavlensky, j'ai connu il y a deux mois à peu près. Il m'a contacté justement parce que j'étais l'avocat d'Assange et qu'il disait qu'il allait préparer une prochaine action. Piotr Pavlensky, maintenant, tout le monde est au courant, mais c'était quand même quelqu'un qui s'était cloué les testicules devant le Kremlin pour protester contre la violence du régime politique russe. C'est-à-dire, c'est quand même quelqu'un qui en a, quoi. Et qui, quand il arrive en France et qu'il voit ce qui se passe avec les Gilets jaunes depuis le 17 novembre 2018, se dit, mais en fait, ce régime est en train de devenir le même que celui contre lequel je me battais. Et je pense que quelque part, ce qu'il a fait, parce que c'est une dimension sacrificielle très forte, c'est un hommage très fort à ceux qui ont perdu un œil, ont perdu une main, ont perdu un pied, ont été arrêtés illégalement, et pour lesquels personne s'indignait.
Alors, c'est intéressant, j'ai mis ces deux vidéos, ces deux Facebook, en fait, Facebook et Twitter. Facebook, le message Facebook est celui de Jérôme Rodriguez, le gilet jaune qui a perdu un œil, et en dehors de la vulgarité du passage, ce qui est intéressant, c'est la référence à Dieu, en fait, la justice divine. Hein. Et Branco est intéressant juste derrière parce qu'il parle de la dimension sacrificielle. Donc, il fait le lien politique avec les Gilets jaunes et il compare Macron et Poutine en disant, en fait, c'est le même combat. Donc, il y a vraiment une tentative de discours idéologique qui s'articule autour de cette histoire. Isabelle Rodriguez.
Oui, peut-être sur cet aspect-là, la référence à la divinité. Déjà, je voudrais dire que... pour répondre aussi, pour prendre la suite de mon voisin. Aujourd'hui, Pavlansky se positionne très clairement en maître chanteur, hein, pour dire les choses très clairement et les sortir de du champ artistique. C'est un maître chanteur. Il dit détenir d'autres vidéos. Et donc se pose aussi la question de est-ce qu'il y a un autre maître chanteur derrière ce maître chanteur? Sur ce point-là, moi, je n'ai pas d'éléments. Il y a des choses. Donc, l'information est à flux tendu. Sur la sanctification, ou plutôt l'auto-sanctification, même si je suis d'accord avec mon voisin qui observe donc Pavlansky a changé de protocole artistique, il pratiquait déjà ce régime d'auto-sanctification visuellement, artistiquement, dans ses performances précédentes, où il utilisait déjà un registre à la fois trash et aussi extrêmement puritain et religieux. Ce faisant, il me semble que Pavlansky, hein, pour le arrive un petit peu en bout de chaîne d'une histoire de l'art, hein, qui, pour le dire très vite, hein, je le dis extrêmement vite, mais depuis Emmanuel Kant a consisté à séparer l'éthique de l'esthétique.
Alors, on va y venir en détail. Hein. Je voudrais finir simplement sur les questions d'actualité.
Sur les questions d'actualité.
Sur la question de la manipulation ou non manipulation. Parce que la situation est intéressante. Une des raisons du brouillage actuel, c'est qu'on n'arrive pas à trancher. Et le fait qu'on n'arrive pas à trancher fait partie en soi d'une narration impossible à dire, en fait. Tariq Krim?
Absolument. Évidemment, j'ai rien d'autre à dire sur le fond de l'histoire, mais ce que je trouve fascinant dans la séquence, en tout cas, la partie sur les réseaux sociaux, c'est le rôle de l'amplification, et notamment le rôle trouble de Laurent Alexandre, hein, qui est un des éditorialistes à l'Express, chantre de l'eugénisme, du transhumanisme. Parce que quand on regarde la timeline qui a été fournie par le site Politico, au départ, il s'agit essentiellement de messages privés. Les gens ont accès à la vidéo, se l'échangent par différents moyens. À un moment donné, la vidéo apparaîtrait sur le site jeuxvideo.com, mais disparaît. Et puis ensuite, il y a quelques bots, donc des robots sur Twitter qui essayent de faire du teasing, mais qui n'ont aucune traction. Et en fait, celui qui fait exploser ce cordon sanitaire, c'est Laurent Alexandre, suivi ensuite du député Sonneforget.
Sonneforget, oui.
Et donc, effectivement, il faut rappeler que tous les médias qui ont été contactés n'ont pas souhaité publier cette vidéo, donc on a le droit à la vie privée, que l'ensemble des...
Selon le point, d'ailleurs, juste une assise, selon le point, il semble, d'après le point, que ça a été démenti par Juan Branco, mais enfin, il semble que Juan Branco ait lui-même participé activement à des tentatives de filer la vidéo à certains aux grands médias.
Oui, effectivement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'ensemble des médias
a refusé,
que les candidats ont fermement condamné. Donc on se retrouve dans une situation où d'ailleurs Laurent Alexandre a dû, dans l'urgence, peut-être sous l'avis de son avocat, se feindre d'une forme d'erreur. J'ai posté trop vite, je n'ai pas lu. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que avant son intervention, je dirais que c'est la personne qui a brisé le tabou. C'est-à-dire qu'à partir de là, les gens qui ont accès à ce genre de choses se disent « je ne veux pas être la personne qui le met dans l'espace public. Mmh. » Et effectivement, là, ce qui est certain, c'est qu'on a un acte fondateur de mise sur l'espace public. J'allais dire, en tout cas, moi qui suis Laurent Alexandre sur Twitter, j'ai appris l'existence de cette...
À travers lui. Ça fait partie aussi... oui, Benoît Tulin, qui n'a encore...
Non, ce que je trouve intéressant, justement, c'est aussi le rôle en amont qui a été joué par les messageries privées instantanées, tous, je ne sais pas, mais en tout cas largement avant la diffusion de l'information, on a tous entendu ou reçu des messages. Alors moi, j'ai pas reçu la vidéo, mais par contre, comme quoi il y avait quelque chose qui circulait dans les milieux autorisés, comme on dit. Et donc cette information s'est répandue, et je pense qu'elle n'est pas pour rien dans la décision après. C'est-à-dire que en fait, le petit milieu médiatique, politique, numérique français bruissait déjà depuis quelques heures. Du fait qu'il y a des informations, alors quelquefois la vidéo circulait elle-même, moi je l'ai pas reçue, mais enfin, et je pense que ça a préparé le terrain. Et ce qui est intéressant justement, c'est qu'en fait on a beaucoup parlé depuis ces deux derniers jours du rôle des réseaux sociaux. En réalité, ils ont précisément assez peu joué de rôle. Et ce qui était intéressant, c'est plutôt la menace qu'ils exerçaient. Oui. Et je pense que c'est la conjonction des deux. C'est-à-dire que j'essaie de me mettre à la place de Benjamin Griveaux et de ses équipes. Ils ont pu déjà sentir dans la diffusion, dans les messageries privées, de l'étendue, en fait, de, du potentiel de diffusion de cette information. Et quand ils l'ont ensuite rapproché de la capacité à se diffuser très fortement sur les réseaux sociaux, ils se sont dit qu'il fallait arrêter très très vite l'opération. Mais en fin de compte, si on regarde le rôle eux-mêmes des réseaux sociaux, ils n'en ont pas joué un si grand que ça. Mmh. Et donc, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est justement le potentiel de dissuasion, que les réseaux sociaux ont joué dans cette affaire.
La menace. Et l'autre élément qui est intéressant, s'il y a manipulation, parce que s'il y a manipulation, c'est la question qui se pose, c'est pourquoi le faire de manière si visible? Pourquoi aller chercher un Russe, comme si on voulait dire les Russes sont là? S'il y a manipulation russe, c'est étrange en soi. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la diffusion de l'insécurité. Quand on regarde la chaîne des personnalités par lesquelles ça passe, tout est double, tout est ambigu, tout est bizarre. Joachim Son-Forget, sa biographie en elle-même est étrange.
Chantre des armes à feu,
il diffuse la vidéo tout en disant je soutiens Benjamin Griveaux dans cette épreuve et j'espère qu'il va pouvoir y répondre. Il est né en Corée du Sud. Il a été adopté par une famille française. Il est titulaire d'un master en sciences cognitives et d'un doctorat en neurosciences. Il est député des Français du Liechtenstein. Il a la nationalité kosovare. Il est claveciniste et karatéka. Il est adepte du tir. Et il est engagé dans la question des retrouvailles entre le Nord et le Sud, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est en soi.
Et candidat à l'élection présidentielle.
Ce qu'il a annoncé, bien sûr, chez Cyril Hanouna, qui lui-même, la même semaine, a fait savoir qu'il envisageait la même question. Dès qu'on se penche sur les personnages, on a des choses comme ça. Alexandra de Tadeo, donc la compagne de Pavlevski, n'est pas sans intérêt. Elle est française, elle a 29 ans, elle est avocate. Elle est membre, comme Juan Branco, du Cercle Avocats Droits de l'Homme, qui est spécialisé dans la défense des droits de l'homme. Le fait qu'elle soit la compagne de Pavlevski pourrait penser qu'on va dans le sens d'une manipulation, mais pas tant que ça, parce qu'on dit qu'ils sont ensemble depuis début 19, donc en 2018... au moment où la vidéo a été réalisée, ils n'étaient pas ensemble. Mais par ailleurs, elle est aussi titulaire d'un master en 2018 consacré à la politique étrangère de la Fédération de Russie à l'égard de l'Arctique. Donc la Russie, là aussi, est présente quelque part dans sa biographie. Et enfin, évidemment, il y a l'artiste lui-même, dont le parcours est très, très étonnant. Vous l'avez dit, vous l'avez tous répété, c'est un opposant à Poutine. Il s'est fait connaître comme ça. Néanmoins, en 2016, on sait par la journaliste indépendante Isabelle Kersimon, qui a posté ce week-end, hier je crois, des photos de lui qui ont été, dont la source est connue, c'est l'historien Anton Cherovtsov. On voit des photos... qui est ukrainien, oui, tout à fait, de Pavlevski prenant la pose avec des membres du groupe C14, qui sont des néo-nazis, en train de faire le salut hitlérien, mais qui sont des néo-nazis nationalistes, donc anti-russes. Et il vient en France comme réfugié politique, militant de gauche, accueilli par Mediapart et soutenu par Juan Branco.
Et d'ailleurs, sa fuite de Russie, puisqu'il a fui de Russie, est également très commentée dans les milieux des droits de l'homme russe,
oui.
Puisqu'il a été accusé d'agression sexuelle sur une personne qui fait partie aussi, enfin qui est un membre du théâtre d'opposition, le théâtre Point Doc. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand il a fui en Russie, quand il a demandé l'asile politique en France, il y a une partie du milieu de défense des droits de l'homme russe qui a dit que les preuves n'étaient pas fabriquées contre lui, que tout cela était vrai. Donc il y a eu un moment aussi de trouble quand il est arrivé en France demander l'asile politique. Donc c'est vrai que d'un côté ces performances étaient visées à réveiller la société. C'est-à-dire lui, Pavlevski, lui, il disait, moi, j'ai fait des études d'art, j'étais dans un milieu où le seul art possible, c'était l'art officiel, c'est-à-dire nationaliste et religieux. C'est-à-dire, on peignait des coupoles d'églises orthodoxes avec des saints barbus et puis des militaires, etc. Et lui, ça l'a profondément choqué. Il a décidé d'aller dans l'autre direction,
qui est une sorte de, d'actionnisme contemporain. Et moi, quand je l'ai rencontré en 2016, il m'a fait vraiment penser à ces anarchistes russes de la fin du 19e.
Oui,
c'est-à-dire avec un discours très construit, ultra radical. C'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement construit, mais dans l'extrême. Et il m'a fait vraiment penser à des personnages de romans, Dostoïevski. Sa compagne, par exemple, il l'appelait pas ma compagne, il disait c'est ma meilleure amie. Mmh. C'est exactement le terme qu'utilisaient les anarchistes russes, les adeptes de l'amour libre à la fin du 19e siècle. Donc, il y avait.
Oui, c'est pour ça que j'ai cité Conrad.
Voilà, tout à fait. Il y avait quelque chose de ça dans le personnage. Et c'est vrai qu'il y avait un aspect sacrificiel. La seule différence, c'est qu'à l'époque, il se faisait violence à lui-même. C'est-à-dire qu'il se scarifiait, il se coupait un morceau d'oreille, il se clouait la peau des testicules. Là, il fait violence contre quelqu'un d'autre.
Oui.
Et ça n'a rien à voir. Oui. Ça n'a rien à voir.
Alors il le fait au nom de la morale, hein, puisqu'il dit qu'il s'agit de châtier un candidat qui invoque les valeurs familiales alors qu'il a une maîtresse.
Qui n'était pas son genre non plus.
Ce qui n'est pas voilà. C'est mais ce qui est, si je devais croire au complot, à la manipulation, ce serait précisément cette espèce de brouillage constant, le fait qu'on arrive à ne rien savoir sur personne qui m'y ferait croire, parce que ça donne le sentiment que peu importe que les informations soient vraies ou non, et même au contraire, le fait qu'on ne sache pas si elles ne sont pas fausses, participe au brouillage général. C'est quelque chose qu'on a vu en 2016 pendant les élections présidentielles, non Tariq ?
Absolument, c'est, quand vous disiez ça, ça me fait absolument penser aux élections où soudain, les relations entre, par exemple, la relation entre le NRA, qui est donc le lobby des armes, et les Russes, ou certains élus républicains qui ont des relations. En fait, on a une forme de trouble, c'est-à-dire que la politique bien établie telle qu'on la connaissait n'existe plus. Chaque personne semble avoir en partie des relations. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, l'Ukraine et la Russie reviennent régulièrement sur le débat aux États-Unis.
Oui, oui, tout à fait.
L'impeachment.
Au moment de l'impeachment, oui, tout à fait. On n'en sort pas. On va faire une pause rapide et je vous donne la parole.
France Culture, Signe des Temps, Marc Wetzmann. Well, he's running around and he doesn't know why. He came too quick last Saturday night. He's got a word to say to you. When he's got to tell you quick, cause it's long been due. You gotta take it easy. Going all around, going shouting out. You gotta take it easy. Going around shouting that he doesn't know how. Is my hair too big? Do I talk too much? Should I do the gig? He's going round the bend and he can't tell now which of his friends are friends. You got to take it easy. Calling all and all on all the sides. You got to take it easy. Going round shouting like he doesn't know how.
Alors, Isabelle Barberis, dans votre article paru dans La Tribune et dans The Conversation, les deux, vous parlez de l'art de Pavelski et en particulier de la question de l'art performatif. Vous pouvez nous en parler un peu là?
En tout cas, ce qui me semble, c'est que la question de la performance, on la retrouve chez Pavlinsky, mais elle est diluée dans la performativité des réseaux sociaux qui ont poussé Griveaux à la démission, et que c'est vraiment emblématique d'une sorte de dernière pirouette de cette histoire de l'art contemporain où, à un moment donné, si vous voulez, ce qui s'est passé dans les années 1990 et 2000, hein, Pavlinsky arrive après, où on a eu quand même un art qui spectacularisait à l'extrême, on le voit chez Maznev, hein, tout simplement, son aspect immoral, et son aspect extrêmement violent, l'acrasie, hein, c'est-à-dire le goût pour pour sollicitant l'acrasie, le goût pour l'horreur, se retourne aujourd'hui à travers, parce que la violence a toujours fait partie, l'extrême violence a toujours fait partie du langage artistique de Pavlinsky, le trash aujourd'hui, comme dans une dernière pirouette, hein, redevient une sorte de discours puritain, ce qui donne ce personnage tout à fait improbable, j'ai presque envie de dire un peu médiatiquement monstrueux, de punk puritain, qui peut effectivement vraiment faire penser au nihiliste des romans de Dostoïevski, hein, qui esthétise soit le meurtre, soit le suicide.
Mais c'est pour ça que j'ai cité, je voulais qu'on entende Rodriguez tout à l'heure, parce que cette référence au divin, comme ça, cette mélange de martyr et de puritanisme.
C'est vraiment le registre de l'auto-sanctification par l'art performance, qui a toute une histoire dont Pavlinsky...
Vous dites qu'il se revendique, qu'il s'inscrit dans la filiation de
Vojnarovitch, de l'actionnisme.
Faut se souvenir que Vojnarovitch est un poète gay, un musicien, peintre, écrivain, new-yorkais, proche de Nan Goldin, qui est mort du sida et dont l'art a été alimenté par la crise du sida et qui a vraiment mis ça en scène. Mais ce on disait tout à l'heure que Pavlinsky avait substitué sa scarification. Il était passé de ça à l'attaque contre les autres. Et on a l'impression qu'il est passé de l'art à la politique de la même manière.
Et il est passé aussi de son corps au corps de l'autre. De manière un petit peu psychotique, il ne faisait plus vraiment la différence entre l'action sur son propre corps et puis effectivement la manipulation assez abjecte d'images du corps de l'autre, employant lui-même des méthodes qui sont totalitaires pour dénoncer ce qu'il considère être du totalitarisme et donc ce qui est vraiment, me semble
très pervers. Ce qui disparaît là, c'est la représentation en fait.
C'est là, bien sûr.
Une incise. Oui. Ses actions en Russie, il montrait son corps. Il le montrait volontairement nu pour choquer la société, pour dire vous pensez que vous êtes dans une société ivre de ses succès militaires et diplomatiques et je vous montre la vérité, la nudité de la violence de ce régime. C'est ce qu'il faisait. Aujourd'hui, il utilise une nudité qui, au contraire, cherche à se cacher puisque c'est une nudité privée. C'est-à-dire qu'au lieu d'exhiber volontairement sa propre nudité comme il le fait, il vole la nudité d'autrui qui est à usage privé pour la déballer, ce qui est totalement autre chose.
Oui, tout à fait. Il y a cet aboutissement d'une tendance artistique qui va vers le mélange complet des genres.
Vers le virtuel, en fait.
Vers le virtuel et vers la fin de la représentation.
C'est ce que vous soulignez en disant qu'en fait tout sonne faux, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le discours de Juan Branco que vous nous avez fait entendre sonne extraordinairement faux et de manière extraordinairement jouée, posée. Hein, et tout est faux depuis ce geste double de Pavlinsky. La réaction de Griveaux sonne extrêmement faux. Déjà, on peut trouver que c'est parfaitement stupide de mettre la dernière touche, en quelque sorte, à l'œuvre performative de Pavlinsky en se retirant de la candidature, donc en la consacrant, et aussi en arborant cette attitude de père de famille, c'est-à-dire qu'en se situant toujours sur ce registre-là. Et la réaction, par ailleurs, aussi de La République en marche. Alors, on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a une manipulation ou pas? En tout cas, il me semble qu'il y a une récupération et une volonté de La République en marche de cautionner une série de réformes, que ce soit des réformes transhumanistes, que ce soit des réformes aussi qui sont dans l'agenda aujourd'hui gouvernemental sur la reconnaissance faciale et qui précisément mettent en danger la vie privée. Et aujourd'hui, je pense que aussi la réaction de La République en marche et en particulier du président de la République utilise cette affaire pour cautionner tout un discours sécuritaire sur le numérique, mais discours sécuritaire qui met en place, qui met en danger, à mon sens, ce qui relève de la vie privée.
Alors,
on va le mettre en danger.
On va en parler dans une seconde, mais je voudrais juste finir sur la question de l'art. Est-ce qu'on n'a pas un parallèle entre cette indistinction entre les mots et les actes, entre la réalité et la fiction, entre ce qui est représenté et ce qui ne l'est plus, et ce que disaient les anarchistes terroristes à la fin du 19e siècle, la propagande par le fait. Le moment où les mots deviennent des, où les actes deviennent des mots. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de commun entre les deux?
Si, tout à fait. Il y a une histoire que l'on peut même faire remonter au romantisme, à Schlegel, qui associait poésie et révolution et prenait une forme effectivement de performativité de la création fictionnelle et poétique.
La programme par le fait, dans
donc
la définition
c'est une histoire, c'est un déroulement profondément inscrit dans la modernité.
Oui, c'est ça.
Et dans Les démons de Dostoïevski, le révolutionnaire en chef Piotr Verkhovensky explique qu'il faut une esthétisation de l'acte terroriste, c'est-à-dire là en l'occurrence du meurtre d'un prétendu traître. Il faut esthétiser et il faut un prince de la révolution qui est un autre personnage, Stavrogin des démons. Et il faut absolument esthétiser la révolution. La révolution commence par une dénonciation chez Dostoïevski, une dénonciation qui se veut réaliste des mensonges bourgeois et se termine par une sorte d'esthétisation où la purification se fait religieuse par le feu, par le meurtre et est esthétisée. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à ce système déjà mis en place par Dostoïevski au milieu du 19e.
Alors on parlait du rôle des plus que des réseaux sociaux, du rôle d'Internet dans toute cette histoire et de l'ambivalence d'Isabelle Barberis du gouvernement par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Tarek Krim et Benoît Tulin?
Tarek Krim peut-être.
Écoutez, ce qui est intéressant effectivement, c'est que ce que l'on voit aujourd'hui, ce qu'on observe à travers cette histoire, mais on l'a vu également lors de l'élection américaine, c'est que des alliances contre nature dans le monde physique ont un sens dans le monde numérique. C'est-à-dire que soudain, des conspirationnistes, des gens des extrêmes peuvent coaguler et catalyser ensemble une forme de buzz sur les réseaux sociaux. Donc avoir une audience, une visibilité qu'ils n'avaient pas dans le monde physique. Donc déjà, ce qui est la question qu'on doit se poser, il ne faut pas oublier que toutes ces plateformes ont été développées aux États-Unis par des ingénieurs essentiellement américain, en tout cas dans le droit américain. Donc, d'une certaine manière, en développant ces plateformes, on a exporté le modèle américain, notamment le modèle du free speech, du fait, comme l'explique Mark Zuckerberg en long et en large, que nous n'interviendrons pas sur la véracité du discours politique, nous ne sommes qu'une simple plateforme, une courroie de transmission. Et donc, en fait, on se retrouve désormais à devoir gérer des machines, du code qui ont donc été développés par des gens. Il faut rappeler que l'algorithme n'existe pas, c'est une personne qui le construit avec une idéologie politique. Et on a donc accepté que le débat public a été d'une certaine manière contrôlé par des plateformes sur lesquelles on n'a absolument aucune prise.
C'est-à-dire qu'il y a un langage en soi d'Internet. Au sein duquel les idéologies traditionnelles n'ont plus vraiment cours, les rapprochements se font par d'autres biais, d'autres manières.
Je pense qu'il y a, ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, on a cru que l'Internet était une simple évolution économique, une version ultra néolibérale, pourrions-nous dire, mais en fait, il y a une idéologie politique, et cette idéologie que j'appelle ça les suprémacistes numériques, c'est des gens qui pensent que la machine, le code, les mathématiques, que le monde est une équation, que l'on va optimiser en permanence. Et ces problèmes que l'on voit, que ce soit des élections, que ce soit ce qui s'est passé avec les Rohingyas en Birmanie, donc le quasi-génocide des Rohingyas qui a été accéléré algorithmiquement par des plateformes comme Facebook, sont des choses que l'on va réparer au fur et à mesure. C'est-à-dire que finalement, la démocratie, quand on veut optimiser la démocratie, on arrive dans une forme d'autoritarisme. Et cette idéologie, qui est une idéologie qui est très populaire parmi les développeurs, en tout cas certains développeurs de la Silicon Valley, nous pose un problème, parce que la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les plateformes vont définir ce que nous sommes en tant que démocratie, ou est-ce que c'est encore la démocratie qui a le pas sur la manière dont les plateformes sont développées?
Oui, parce que ce qui se passe, on l'a vu au moment avec le développement de l'islamisme et du terrorisme, ce qui se passe, c'est que la véracité d'une information ne compte plus. Ce qui compte, c'est ce qui donne le critère de sa véracité, c'est sa capacité à se diffuser et à se reproduire, en fait.
Absolument, c'est ce que j'appelais la radicalisation algorithmique. Quand vous allez sur un site comme YouTube, vous regardez une vidéo, la prochaine vidéo va être un peu plus extrême, et celle d'après, et celle d'après. C'est un problème qui est en fait lié exclusivement à une question monétaire, c'est que d'une certaine manière, on a fait un arbitrage entre la véracité et l'aspect démocratique des informations et le business model, on a choisi les revenus. Donc en fait, aujourd'hui, quand vous regardez je crois que YouTube c'est 20 milliards cette année, Instagram 15 milliards, ce sont des sociétés qui sont extrêmement profitables parce qu'elles utilisent justement nos informations personnelles et nous manipulent, nous mettent dans une sorte de boucle infinie dans laquelle on est constamment exposé à des informations qui sont parfois d'ailleurs contradictoires et qui rendent une partie de la population, j'allais dire, complètement folle.
Mmh. Benoît Thiolin.
Oui, je pense que c'est très important ce que disait Tariq Rim à l'instant, c'est-à-dire que on se rend bien compte aujourd'hui que la manière dont ce monde numérique influe sur nos bonnes vieilles institutions démocratiques pose des questions absolument essentielles. Alors non seulement on a l'importation d'un modèle qui n'était pas forcément celui de l'Europe, et notamment sur la liberté d'expression, qui a assez peu de digues et de garde-fous aux États-Unis, alors que dans notre droit c'était très différent. Donc on se retrouve complètement en porte-à-faux avec des plateformes qui sont régies idéologiquement et parfois même juridiquement par des pratiques qui sont absolument pas les mêmes ici. Et donc je pense que oui, on va être obligé de se poser des questions. Alors d'une certaine manière, les responsables des plateformes eux-mêmes se rendent compte en fait de la part grandissante de la responsabilité qu'ils ont. C'est-à-dire qu'il y a quand même un avant et un après-élection de Trump. Les grands discours de Mark Zuckerberg d'il y a une dizaine d'années sur la disparition de la vie privée, on les entend plus beaucoup. C'est-à-dire que quand même, ils ont... Alors certes, ils continuent de se considérer comme une plateforme neutre qui n'a pas à regarder au fond les messages, sauf dans des cas un peu extrêmes, pour lesquels d'ailleurs, ils vont être obligés de mettre en place des solutions, là encore, technologiques, pour résoudre la circulation d'un certain nombre de messages. Et en fait, progressivement, sans qu'on s'en rende compte, moi c'est une de mes obsessions, ces plateformes en réalité se pensent et se structurent et agissent de plus en plus comme des nouveaux gouvernements, comme des nouveaux États. Vous avez peut-être vu il n'y a pas très longtemps, évidemment ça a beaucoup défrayé la chronique, la création d'une monnaie envisagée par Facebook. Ce qu'on a moins vu qu'il y a quelques jours, une quinzaine de jours je crois, c'est les annonces de Mark Zuckerberg sur le fait de créer une espèce de cour suprême qui soit l'instance d'arbitrage suprême qui permette d'arbitrer justement les retraits, parce que quand vous êtes sur une plateforme, il va y avoir des algorithmes, alors quelquefois derrière avec un peu de contrôle humain, mais quand même beaucoup d'algorithmes qui vont vérifier si l'information que vous postez contrevient ou pas à la législation plutôt américaine d'ailleurs. Et donc, comme tout d'un coup, on a cette technologisation de choses qui en principe étaient dans le droit avec des institutions anciennes, etc. Et ben là aussi, il y a un décalque des institutions classiques dans le champ. Et avec une question quand même fondamentale qui est posée, c'est combien de temps va-t-on laisser encore les plateformes s'auto-réguler copier parfois même des procédures qui étaient celles d'institutions démocratiques, sans qu'on ait notre mot à dire et sans qu'on ait aussi la capacité de porter dans le code, dans les algorithmes, dans les plateformes, tout simplement notre organisation juridique, démocratique, qui n'est pas la même en France et en Angleterre, et encore moins aux États-Unis.
Et vous me disiez, Tariq Rim, avant l'émission, quand on s'est parlé au téléphone, vous parliez avec des journalistes américains qui, pendant la campagne, vous disiez après coup que pendant la campagne, ils étaient épuisés, ils n'arrivaient plus à suivre le rythme de l'information générée, en fait, par Trump, bien sûr, mais générée par ces algorithmes, en fait. Il y a une économie de l'information qui met tout le monde dans un état de désarroi total.
Absolument, dans ce qu'on appelle ça la civilisation de la post-vérité, il faut faire ce qu'on appelle le fact-checking. Ça demande beaucoup plus de travail et j'ai des amis américains, journalistes américains, qui disent avec la nouvelle administration, ça demande 5 à 6 fois plus de travail que précédemment, parce que les personnes que l'on a en face de nous ne sont pas crédibles, il faut tout vérifier, que c'est difficile, qu'il y a aussi un rapport au temps qui a changé. Il faut pas oublier que le patron de Cambridge Analytica est un génie de l'intelligence artificielle, Robert Mercer, qui a donc financé toutes ces différentes opérations, d'abord pour Ted Cruz et ensuite pour Trump, et que sa vision, et d'ailleurs sa fortune, a été construite dans cette idée de créer des algorithmes qui transforment le marché, qui l'emmènent, les marchés financiers, dans une direction dans laquelle plus personne ne peut lutter. Et en fait, il s'est rendu compte que ces techniques étaient tout à fait transposable
en politique,
et que finalement, à la fois, vous avez des attaques multiples, vous avez à la fois, il faut empêcher un électorat d'aller aux élections, ce qui est très efficace, surtout dans certains États. Ensuite, on est capable de mettre en avant des choses contradictoires. Ce qui a changé, en fait, avec l'élection de Trump, c'est qu'on est capable de toucher les gens dans leur téléphone, donc dans l'intimité de leur téléphone, à un moment où ils sont le plus faibles, ou en tout cas psychologiquement. Et si je me permets juste une chose, je pense qu'on a été, et notamment en France, et on le voit aujourd'hui avec ce gouvernement, très léger sur ces questions, parce que pour beaucoup de gens, malheureusement, et c'est vrai depuis l'élection d'Obama, c'est qu'on a mis des gens de communication sur les questions d'Internet et pas des gens qui avaient une compétence technologique. Et donc aujourd'hui, la plupart des choses qu'on voit, les projets de loi dont vous parlez sont essentiellement des projets de communication. On explique que la technologie est un miracle, la reconnaissance faciale, ça marche pas. Le droit par l'intelligence artificielle, ça marche pas. Ça crée beaucoup de faux positifs. Et donc on est en train de vouloir installer l'idée de faire une sorte de technopolice qui n'est même pas fonctionnelle. Et donc on a un vrai problème de compétence. C'est-à-dire qu'au-delà du fond, les gens qui aujourd'hui s'intéressent à la loi, on s'intéresse toujours aux conséquences, jamais aux causes.
Et ce désarroi, enfin cette façon qu'on a de recevoir des informations, enfin on le voit partie cette histoire de Griveaux, Flazensky, c'est vraiment un cas d'école en ce sens que toutes les informations qu'on reçoit sont démenties ou sont brouillées par des informations contraires, ce qui fait qu'on ne sait plus du tout où on habite et ça va très très vite. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette espèce d'accélération comme ça de l'information qui nous renvoie paradoxalement au passé, qui nous renvoie à Dostoïevski et à Conrad?
On pense beaucoup effectivement à cette société de la fin du 19e siècle qui se disait, où par exemple les critiques d'art se disaient commotionnés, hein, c'était la commotion, l'esthétique de la commotion. Et aujourd'hui on est aussi dans ce régime du choc. Et juste pour revenir vers le passé, hein, ce que je trouve intéressant en vous écoutant aussi en tant que spécialiste du numérique, c'est l'art performance a anticipé sur bien des techniques. Oui. Et notamment, elle a anticipé, alors Richard Schechner, l'un des spécialistes, considérait Alan Kaprow, un artiste de performance, comme l'inventeur des réseaux sociaux, avant les réseaux sociaux. Et pourquoi? Parce qu'en fait,
c'est lui qui a inventé le happening, pratiquement.
C'est lui qui a inventé le happening et donc, d'une certaine manière, les flash mobs. Mmh. Et donc, c'est l'art performance qui a... On parlait de Pavlinsky qui citait Wojnarowicz et aussi qui le défigure en quelque sorte, parce que la portée politique du geste de Wojnarowicz est incontestable. Celle de Pavlinsky me semble déjà quelque peu érodée. Mmh. Et donc, le geste de partage que l'on retrouve aujourd'hui à grande échelle sur les réseaux sociaux et qui brouille énormément les registres du discours. Hein, ce partage absolument incontrôlable qui fait qu'effectivement tout ce qui est de l'ordre de l'état de droit ou des médias est à la traîne par rapport à ce langage performatif, eh bien, s'est d'abord trouvé dans les protocoles d'art performance et dans les manières extrêmement inventives et créatives, hein, mais dont les artistes citaient entre eux et souvent perdaient le contrôle sur leur propre œuvre d'art, sur leur propre communication.
On est au cœur de l'ambiguïté de la modernité, non, Michel Etchaninov?
Oui, d'autant que ce qui est vraiment intéressant, c'est le télescopage qu'il y a entre cette affaire Griveaux-Pavlensky et les déclarations d'Emmanuel Macron hier à une tribune diplomatique.
Tout à fait.
Conférence sur la sécurité à Munich, où Vladimir Poutine avait fait il y a des années des discours célèbres, c'est que Emmanuel Macron est en processus de rapprochement avec la Russie, très critiqué, très très hasardeux. Et je me souviens que Emmanuel Macron, quand il avait justifié cette politique de rapprochement, avait dit nous aurons des preuves que cette politique de rapprochement est une erreur, mais nous irons quand même en avant. Je crois que avant-hier, il n'est pas impossible que nous ayons eu une preuve, ou en tout cas une démonstration, si jamais on apprend un jour qu'il y a un réseau russe derrière cette manière de faire tomber Griveaux, eh bien nous aurons eu la preuve que oui, ce rapprochement russe était peut-être une erreur. C'est-à-dire qu'il y a un télescopage diplomatique ici qui est vraiment pas inintéressant et que Macron a parfaitement compris hier en parlant de deepfake. Little dads tumble, slipping on the rainy street. Little dads tumble, slipping on a rainy street. Made $198, spent it on wine and gasoline. I'm all about the money.
C'était Signe des Temps. Une émission de Marc Wetzmann, assistée de Céline Leclerc, avec à la technique Jean-Guilain Meige et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière. Sunrise to moon.